Bonsoir Amélie.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Comme un droit d'inventaire sur l'Église catholique après les condamnations des abus sexuels, le pape François joue encore la transparence à propos de Pie XII. Il va ouvrir les archives pour comprendre le rôle du pape controversé pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Algérie ne veut plus du président Bouteflika, mais qui pour représenter l'alternative? L'opposition peine à convaincre ou à rivaliser avec le pouvoir en place. Emmanuel Macron publie ce soir sa tribune dans toute l'Europe, dans les 28 États membres. Un lancement de campagne inédit. Avis aux amateurs de romans d'espionnage, tous les services de renseignement d'Europe sont actuellement à Paris pour une réunion top secrète. Ça souffle fort, plus de 100 km/h parfois en ce moment. Demain, le vent se calme. On fait le point complet sur la météo à la fin de ce journal avec Élodie Calac.
Et à 18h15, un jour dans le monde, comprendre la situation en Algérie avec Mohamed Sifaoui. Il sera avec nous, journaliste qui vient de publier « Où va l'Algérie ?» aux éditions du CERF. Il raconte la confiscation de tout un pays par un seul clan. Il décrit le fonctionnement du pouvoir en Algérie. 19h20, le téléphone sonne. Le service national universel, comment va-t-il fonctionner? Le recrutement des volontaires a été lancé aujourd'hui. Toutes vos questions, 01 45 24 7000 et bien sûr sur franceinter.fr.
France Inter.
Amélie Perrier, le Vatican va lever le voile sur l'une des pages des plus sombres de son histoire.
Le pape François annonce aujourd'hui l'ouverture des archives secrètes du Saint-Siège à propos du pontificat de Pie XII, le pape en exercice entre 1939 et 1958. Et c'est surtout son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale qui intéresse et interroge. Bonsoir Mathilde Imberti.
Bonsoir à tous.
Notre correspondante à Rome. Alors, cela fait des années que des chercheurs réclament de pouvoir travailler sur la position du pape Pie XII ou son absence de position vis-à-vis de la Shoah et des nazis.
Oui, une position, celle de Pie XII, que le Vatican a toujours défendue. Il soutient que le pape italien a œuvré en coulisses pour sauver des juifs. Les décisions de Pie XII, a encore déclaré le pape François ce matin, étaient des tentatives de maintenir la petite flamme de la diplomatie dans une période sombre, je cite. La version est tout autre du côté des organisations juives, pour qui Pie XII a manqué de courage. Elle cite notamment la déportation d'un millier de personnes du ghetto de Rome qui s'est déroulée sans que le pape n'intervienne à l'époque. On comprend pourquoi cette ouverture d'archives est très attendue et pourrait révéler des informations précieuses, relève le vaticaniste Antoine-Marie Isoard, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Famille Chrétienne.
Si Rome prend le risque, entre guillemets, d'ouvrir ses archives, c'est que Rome sait qu'on y trouvera un certain nombre de pépites. C'est ce que j'ai entendu, moi, plusieurs fois, et de pépites au sens positif, vu de Rome. Il y a une certitude, c'est que Pie XII a secouru un certain nombre de familles juives avec l'aide des employés de la secrétaire d'État, dans les jardins en particulier, ou du moins dans la propriété de Castel Gandolfo. De là à savoir si la neutralité, du moins la grande prudence à certains égards de Pie XII face au nazisme n'est que diplomatie, eh bien, c'est le doute que certains du monde juif ou certains chercheurs ont encore. Il est temps effectivement que ces archives soient ouvertes.
Ajoutons que c'est le pape François qui prend effectivement cette décision d'ouvrir les archives, mais elle est préparée depuis des années au Vatican. Les archivistes cataloguent patiemment les archives depuis 13 ans, sur décision de Benoît XVI alors. Ils ont préparé en quelque sorte le travail des historiens qui, dans un an, le 2 mars 2020, pourront consulter 1 million de documents. Ce sera le jour du 81e anniversaire de l'élection de Pie XII.
Merci beaucoup Mathilde Imberti en direct de Rome pour France Inter. Israël a très vite réagi pour dire sa satisfaction. L'État hébreu espère que cela permettra d'avoir accès à des archives pertinentes, même attentes du côté de Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem. Et puis l'Église mise à l'épreuve, décidément en ce moment, illustration de la crise des vocations, le séminaire de Lille en France ferme ses portes. Il ne recevra pas de nouveaux candidats à la prêtrise à la rentrée prochaine. Les étudiants actuels termineront leur cycle dans d'autres séminaires à Metz ou ici les Moulineaux. L'Algérie, elle, voudrait tourner la page d'une histoire qui a trop duré pour un certain nombre d'électeurs. 20 ans de président Bouteflika. Au lendemain du dépôt de la candidature du sortant, une nouvelle manifestation, des étudiants ont boycotté les cours aujourd'hui. Mouvement massif, donc pacifique, contre cette candidature à un cinquième mandat. Mais qui pour représenter l'après Bouteflika? 18 rivaux potentiels ont déposé leur candidature hier. Aucun ne semble en mesure de bousculer le pouvoir en place et l'opposition la plus crédible a choisi le boycott. C'est la correspondance à Alger de Laïla Berato.
Lorsqu'Abdelaziz Bouteflika avait été réélu pour un quatrième mandat, déjà affaibli par un AVC, l'opposition avait réussi à s'unir pendant plus de 2 années. La conférence de Mazafran, du nom de l'hôtel où les personnalités politiques se réunissaient, a buté sur une question : faut-il négocier ou non avec le pouvoir ? Au fil des mois, les partis qui participaient ont fait face à des tensions internes, certains cumulant de mauvais scores aux élections parlementaires et locales. Fin 2018, cette union n'existait plus. Aujourd'hui, Dali Benflis, l'ancien chef de gouvernement au parti historique d'opposition, le FFS, en passant par les islamistes du MSP, tous refusent de participer à l'élection présidentielle, mais ils ont pourtant du mal à trouver une position commune. Il y a deux semaines, certains partis et personnalités ont tenté de négocier pour opposer un candidat unique à Abdelaziz Bouteflika. Certains invités ne se sont même pas déplacés et la réunion n'a pu qu'émettre une déclaration de soutien aux manifestations. À Alger, Leïla Berrato, RFI pour France Inter.
Un retour au Venezuela, celui de Juan Guaido, opposant au président Maduro. Il vient d'atterrir à Caracas, la capitale, après une tournée en Amérique latine. Celui qui s'est autoproclamé chef de l'État revient chez lui malgré les menaces, dit-il. Les États-Unis qu'il soutiennent ont menacé quiconque s'en prendrait à lui d'une réponse forte et significative.
Amélie Perrier, la campagne électorale pour les élections européennes est lancée du côté de la majorité.
Et surtout du côté d'Emmanuel Macron. Le président publie demain une tribune dans les 28 pays de l'Union européenne. L'Élysée n'hésite pas à dire que ce sera la prise de parole la plus forte du président depuis la Sorbonne, depuis ce discours de septembre 2017, où le chef de l'État avait livré sa vision d'une Europe souveraine, unie et démocratique. Une lettre diffusée donc dans l'Europe entière. C'est en tout cas une initiative inédite, nous dit le spécialiste de ces questions, Yves Bertoncini.
Emmanuel Macron peut en effet penser que le chamboule-tout qu'il a porté au pouvoir en France pourrait lui réussir à nouveau au niveau européen. Il y a quand même des différences notables. Il a pris le pouvoir en France dans un milieu liquide, le dégagisme vis-à-vis des partis traditionnels, est même devenu gazeux avec l'affaire Fillon. Au niveau européen, on est plus dans un milieu solide, sinon même fossile. Il y a quand même des forces politiques installées depuis très longtemps. Alors, je crois qu'il en est tout à fait conscient, mais qu'il essaye de pousser son avantage au maximum. Il a pour lui la clarté de ses idées. Il va donc essayer de peser au maximum à l'issue d'une élection qu'il ne peut pas gagner politiquement parce que il n'aura pas la majorité des suffrages, mais qui peut tout à fait gagner un peu plus intellectuellement en définissant les propositions après l'été 2019.
Yves Bertoncini, le président de l'ONG Mouvement Européen France, il répondait à Laurence Perron. Emmanuel Macron sur plusieurs fronts, donc entre les gilets jaunes, la fin du grand débat, les élections européennes. Et parmi ses opposants, certains ont décidé d'une nouvelle forme de contestation. Il décroche le portrait du chef de l'État dans les mairies à Lyon, Paris, Biarritz, Saint-Jean-de-la-Ruelle, dans le Loiret, ou encore ce matin à Saint-Sébastien. Sur Loire, tout près de Nantes. C'est une action là du GIGNV, le groupe d'intervention des grenouilles non violentes, car l'objectif c'est de dénoncer avec un cadre vide dans la mairie l'absence d'action en faveur de l'environnement. Léa Vavasseur a participé à l'opération.
Effectivement, on l'entend beaucoup, il est très très fort pour parler notamment du climat au niveau international, il apparaît vraiment comme un champion du climat, sauf que dans les fêtes, à part justement de beaux discours, il n'y a pas d'action concrète, il y a une belle image, l'image du président, et derrière, il y a un peu le vide de la politique. Au niveau des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, la France ne baisse pas du tout ses émissions de gaz à effet de serre, au contraire, elles sont en augmentation, et ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres d'une politique qui est incompatible avec l'urgence climatique qu'il y a actuellement, et l'accord de Paris, enfin les ambitions politiques aussi qui ont été posées d'un besoin d'une baisse drastique des émissions de gaz à effet de serre dès maintenant.
Léa Vavasseur, qui a décroché le portrait d'Emmanuel Macron à Saint-Sébastien-sur-Loire, elle répondait à Marion Fersing. Des kilomètres de bouchons de poids lourds à l'entrée du tunnel sous la Manche, sur l'A16, des douaniers de Calais et de Dunkerque ont entamé aujourd'hui une grève du zèle illimitée pour montrer les conséquences du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le gouvernement a prévu 700 agents en renfort pour ce Brexit. Ce n'est pas suffisant, disent les syndicats. Le plan social de Ford en Gironde sur le point d'être validé par l'administration. Dernière étape avant la fermeture de l'usine de Blanquefort. 850 salariés y travaillent. Dossier hautement politique, on l'a vu avec les tentatives de Bercy de faire plier le constructeur américain pour sauver le site. Avec Benoît Hamon également aujourd'hui, le fondateur de Génération s'est rendu sur place et a défendu la nationalisation temporaire de l'usine. Avec enfin un autre ancien candidat à la présidentielle, Philippe Poutou, délégué CGT dans cette usine de Blanquefort. Lui espère que l'administration bloquera le plan social.
Mais malheureusement, oui, le pronostic, si on en faisait un, c'est que la directe va finir par l'homologuer, ce qui serait encore grotesque, parce que c'est le même PSE qui n'a pas été homologué le 29 janvier. Donc là, il serait en passe de l'homologuer, et nous, on pense que c'est un moyen de pression énorme sur Ford, parce que tant que le PSE n'est pas homologué, Ford ne peut pas exécuter son PSE, ne peut pas faire partir les gens, il ne peut pas fermer l'usine. Donc il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut récupérer l'argent public, si on veut imposer à Ford de payer un minimum les dégâts qu'il fabrique, ça veut dire qu'il faut utiliser le seul moyen d'action qu'il y a, puisque malheureusement, l'État dit ne pas avoir d'autres moyens d'action. Hein, et c'est là où on pose le problème aussi des lois à voter en urgence. Il faut voter des lois en urgence pour permettre à ce que l'État se dote de moyens d'action, à la fois en récupération d'argent, en récupérant l'argent, mais en même temps en contrôlant l'outil de production. Donc la réquisition, si aujourd'hui c'est pas légal, ça doit pas être très compliqué de la rendre légale.
Philippe Poutou au micro France Bleu de Fanette Ourte. Il est le frère du terroriste de l'attaque de Strasbourg en décembre dernier. Malek Chekat vient d'être condamné à 6 mois de prison ferme et 6 avec sursis pour avoir publié des menaces de mort sur Facebook.
Amélie, c'est l'un des rendez-vous les plus secrets du moment.
La réunion des espions de toute l'Europe. Près de 300 dirigeants des services de renseignement sont à Paris aujourd'hui et demain. Ils officialisent en toute discrétion le lancement d'un collège pour le renseignement en Europe. Un bal des espions ouvert cet après-midi. Emmanuel Leclerc dans le plus strict des huis clos.
On se connaît tous, confie un patron du renseignement français, mais jamais on ne s'était parlé au même moment dans un même lieu, en l'occurrence le centre de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères. Les services intérieurs et extérieurs, civils et militaires des 28 pays de l'UE sont là, plus la Suisse et la Norvège. Mais ce n'est pas sous l'égide de Bruxelles et de l'Union européenne. On est sur du pur régalien, sur ce qu'il y a de plus sensible en matière de souveraineté, rappelle un haut responsable à l'Élysée qui a participé à l'organisation de ce sommet des espions. Tout le monde, dit-il, se parle, mais il n'y a pas d'amis, juste des partenaires au coup par coup pour protéger certains grands projets européens comme Airbus. L'idée de créer un collège du renseignement en Europe avait été lancée par Emmanuel Macron à l'automne 2017, pas pour donner des cours ou former des espions, mais pour créer une structure capable d'organiser régulièrement des retours d'expérience sur le contre-terrorisme où il n'y a en général pas vraiment de discordance, sur le cyber où tout le monde espionne tout le monde, et enfin sur les confrontations récentes en matière d'espionnage industriel avec principalement les services russes, chinois ou américain.
Les sanctions se poursuivent contre la Ligue du LOL, ce groupe de journalistes, notamment terreur des réseaux sociaux, accusés d'avoir harcelé des femmes surtout. Après les Inrocks, Libération annonce aujourd'hui avoir licencié son rédacteur en chef adjoint du site internet, Alexandre Hervault. Le journal a mis fin à sa collaboration avec Vincent Glade également. Vincent Glade, le fondateur de cette Ligue du LOL, il était pigiste à Libé. Des préservatifs remboursés par la Sécu, une deuxième marque est prise en charge par l'assurance maladie à partir d'aujourd'hui, après les Eden, la marque Sortez Couvert entre dans le dispositif lancé par le gouvernement pour lutter contre le sida et les infections sexuelles. Pour se faire rembourser, il faut simplement avoir une ordonnance de son médecin. Le sport, côté scandale, et l'équipe de coureurs cyclistes français Groupama FDJ éclaboussée. Son coureur, Georg Preidler, est le deuxième autrichien épinglé dans le cadre du réseau de dopage démantelé la semaine dernière, d'abord dans le ski de fond. Là, le cycliste n'a pas attendu d'être arrêté par les autorités, d'après le manager de Groupama FDJ, Marc Madio. Georg Preidler a lui-même averti son équipe et présenté sa démission.
Pour ce qui est de l'affaire en elle-même, je pense que la justice doit faire son travail, elle va le faire. J'espère et je souhaite, mais j'en suis aussi certain, que Georg va prêter son concours de la meilleure des manières à régler cette affaire et surtout à permettre de comprendre pourquoi on arrive à de telles situations. C'est une énorme déception à titre personnel également, parce que j'avais une grande confiance en ce coureur et malheureusement cette confiance a été trahie. Ça fait partie des aléas de la vie d'une équipe et de la vie en général. J'espère que Georg saura tirer les conséquences de son erreur et s'impliquera totalement et pleinement pour faire toute la lumière dans cette affaire.
Le manager de l'équipe Groupama FDJ, Marc Madio, avec Fabrice Rigobert. Et puis une fin aussi brutale que ses tubes. Le chanteur de Prodigy, Keith Flint, a été retrouvé mort. Il avait 49 ans. Un suicide, selon un autre membre du groupe Electro. The Prodigy avait imposé dans de nombreux festivals à travers le monde et en France, notamment sa techno virulente, tout droit sortie des rêves illégales du Royaume-Uni.
C'était le journal d'Amélie Perrier dans un quart d'heure. Amélie Perrier revient avec Sous les radars de l'actualité au sommaire, Amélie.
Eh bien, les moscovites espionnés à leur insu, leurs données de téléphone portable sont revendues des fortunes aux autorités. Les Saoudiens qui tentent de s'incruster à la Scala de Milan. Et puis l'Eurovision rarement aussi politisée. Dernier scandale en date, le groupe qualifié pour l'Islande. Il promet de chanter contre le gouvernement israélien lors de la finale à Tel Aviv.
À tout à l'heure, Amélie, les couleurs du ciel.
La météo avec Préfond, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfond-retraite.fr.
et avec nous, Élodie Calac de Météo France. Bonsoir Élodie.
Bonsoir à tous.
Ça se calme sur le nord-est ce soir?
Eh oui, les 11 derniers départements du nord-est viennent de sortir de la vigilance orange. Les vents forts se décalent vers l'Allemagne. Alors on peut encore avoir 80 à 90 km à l'heure tout de même sous les averses les plus fortes. Sur la Corse, en revanche, on attend parfois 100 km à l'heure ce soir et cette nuit, plus même sur le relief et les caps. On a déjà eu 111 km à l'heure au Cap Corse.
Demain, Élodie, ce sera plus calme.
Oui, toujours du vent quand même sur le nord de la Corse jusqu'à 100 km à l'heure. Sur le sud-ouest, Rhône-Alpes et autour de la Méditerranée, du soleil. Des pays de la Loire et de Poitou-Charentes vers le centre, le massif central, la Franche-Comté, beaucoup de nuages, une averse possible. Des rayons de soleil tout de même qui finiront d'ailleurs par s'imposer vers la Vendée, les Charentes ou alors le Jura. Et puis au nord de la Loire, un ciel encombré, des averses, du vent jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Rien à voir avec aujourd'hui. Ce sera assez doux l'après-midi avec 10 à 15 degrés au nord et 15 à 20 au sud. Les 20 pour Biarritz.
Merci Élodie Calac.